à Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Des pays occidentaux s'opposent à une livraison d'armes chinoises à la Centrafrique sous embargo. L'opposant congolais Moïse Katumbi a été interpellé à l'aéroport de Bruxelles avec un passeport falsifié. Les communautés religieuses sénégalaises célèbrent l'Eid el-Fitr ensemble, une première depuis des années. Donald Trump a annoncé de nouvelles taxes douanières sur des importations chinoises. Coupe du monde, victoire de l'Uruguay face à l'Égypte par 1-0 et de l'Iran face au Maroc par 1-0. Également, le match Portugal-Espagne commence dans 30 minutes. La France, le Royaume-Uni et les États-Unis se sont opposés à une demande d'importation d'armes chinoises par la Centrafrique. Le pays est soumis depuis 2013 à un embargo sur les armes. Le point avec Marie Benson.
La ministre centrafricaine de la Défense, Marie-Noëlle Koyara, a demandé à l'ONU de lever en partie l'embargo pour autoriser l'importation d'armes chinoises pour équiper son armée et sa police. La France et les États-Unis ont fait remarquer qu'il n'y avait pas de menace d'attaque aérienne contre la Centrafrique, pouvant justifier l'acquisition de certaines armes. Le Royaume-Uni s'inquiète du transit de ces armes par le Cameroun sans escorte jusqu'à la frontière centrafricaine. L'équipement que la Chine veut fournir à la police et à l'armée de Bangui regroupe des armes lourdes comme des véhicules blindés, des mitrailleuses, des grenades et des armes à feu. La demande d'exemption de Bangui est soutenue par la mission de l'ONU en Centrafrique, qui subit régulièrement des attaques de groupes armés.
La Centrafrique a nommé le Belge Peter Meus, un ancien président de la Bourse du Diamant de Dubaï, conseiller du gouvernement. Ce conseiller travaillera sur tout ce qui touche au processus de Kimberley, a déclaré le ministre des Mines Léopold Bonifatran. Peter Meus est un membre fondateur du processus et dirige le Centre mondial du diamant d'Anvers. L'opposant congolais en exil, Moïse Katumbi, accuse le régime du président Joseph Kabila d'instrumentaliser les services de l'État congolais après son interpellation à l'aéroport de la capitale belge avec un passeport falsifié. Plus de précisions avec Bagassi Koura.
Selon les médias belges, Moïse Katumbi a été interpellé dans la nuit de mercredi à jeudi par la police de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem alors qu'il revenait en jet privé d'un déplacement en Israël. Selon une source proche du dossier, un problème avec la page du passeport où figure son identité a été visiblement rajouté au document d'origine. L'opposant congolais a toutefois été autorisé à rester en Belgique pour régulariser sa situation. Dans un communiqué, Moïse Katumbi dénonce une instrumentalisation des institutions de l'État par le régime de Kinshasa et un acharnement continu du pouvoir contre sa personne. Selon lui, l'incident provient du fait que les passeports semi-biométriques tels que le sien ont été retirés par les autorités congolaises et qu'une demande de passeport biométrique lui a été refusée sans aucune raison valable. L'opposant a 2 semaines pour régulariser sa situation auprès de l'ambassade de la RDC à Bruxelles.
Le ministre camerounais de la communication, Issa Chiroma Bakari, a dénoncé les grossiers mensonges contenus dans un rapport d'Amnesty International sur les violences et exactions commises dans les régions anglophones. Dans son rapport publié mardi, l'ONG affirme que les forces de sécurité ont commis des violations des droits humains, dont des homicides, exécutions extrajudiciaires, destruction de biens, arrestations arbitraires et des actes de torture durant des opérations militaires. Les Pays-Bas ont annoncé leur retrait de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali, à laquelle ils participent depuis 2014. Ils mettront fin à leur contribution à la MINUSMA le 1er mai 2019 afin d'intensifier la contribution néerlandaise à la mission de l'OTAN en Afghanistan, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué. L'annonce intervient après la publication d'un rapport de la Cour des comptes affirmant que les casques bleus néerlandais au Mali manquent d'équipement d'entraînement et dispose d'un matériel défectueux. Au Sénégal, malgré quelques réticences entre les autorités religieuses, l'Eid el-Fitr a été fêté ce vendredi par l'ensemble de la communauté musulmane. Une première depuis des années. Le président Macky Sall a saisi l'opportunité pour appeler l'opposition au dialogue, selon notre correspondant Seydina Abagay.
Une chorité à l'unisson, le Sénégal n'en avait plus connu depuis quelque temps déjà. Ce vendredi a donc scellé une entente ponctuelle entre les musulmans du pays qui ont fêté l'Eid el-Fitr ensemble. Pourtant hier, jusque tard dans la nuit, la confusion régnait toujours entre la Commission nationale d'observation du croissant lunaire et la puissante confrérie mouride qui avait décidé de fêter l'Eid ce samedi. Confusion vite dissipée par le Khalife général des mourides qui s'est aligné sur la décision de la Commission nationale permettant au pays de fêter l'Eid el-Fitr dans l'Union. Au-delà des considérations religieuses, la fête de l'Eid a une nouvelle fois été l'occasion pour les hommes politiques de se montrer. Dans ce sillage, le président Macky Sall a appelé l'opposition à l'unité nationale. Il a invité la classe politique à participer aux différentes concertations, notamment celles sur la gestion du pétrole et du gaz, d'autant plus qu'il s'agit d'une question nationale. Le chef de l'État a également salué l'unité des confréries religieuses qui participent à maintenir un islam de paix et de tolérance au Sénégal. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
L'ancien chef de la police ougandaise, le général Kale Kayihura, a été arrêté pour être interrogé par l'armée, selon l'armée et son épouse. Monsieur Kayihura, 62 ans, avait été limogé par le président Yoweri Museveni en mars et très critiqué pour n'avoir jamais résolu une série d'affaires de meurtres, enlèvements, vol à main armée et autres morts suspectes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump met ses menaces à exécution en annonçant l'imposition de nouvelles taxes douanières de 25% sur 50 milliards de dollars d'importations chinoises. Pékin a immédiatement annoncé des mesures de rétorsion. Le point avec Idriss Fall.
Cette situation ne peut plus durer, a estimé Donald Trump, citant des pratiques commerciales déloyales et des centaines de milliards de dollars de déficit. Il a donc décidé qu'à partir du 6 juillet, sur les 50 milliards de dollars de produits chinois importés, 34 milliards seront taxés. Un second lot de 16 milliards sera examiné de plus près. Le président américain a déjà imposé en mars des taxes de 25% sur les importations d'acier chinois et de 10% sur celles d'aluminium. Malgré un consensus avec Pékin le 19 mai, la Maison-Blanche avait fixé le 15 juin comme date butoir pour annoncer ces nouvelles mesures. De son côté, la Chine annonce qu'elle va prendre immédiatement des mesures douanières de pareille ampleur. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a eu hier à Pékin des propos assez durs avec Wang Yi, son homologue chinois, qui a cependant exhorté Washington à éviter une approche perdante pour les deux partenaires.
Donald Trump a affirmé avoir largement résolu le problème du nucléaire nord-coréen, assurant avoir établi une ligne directe de communication avec le dirigeant Kim Jong-un. Je lui ai donné un numéro direct où il peut m'appeler s'il a une quelconque difficulté. Je peux l'appeler. Nous sommes en communication. C'est une bonne chose, a-t-il déclaré devant des journalistes à la Maison-Blanche. Le ministre de la Défense, Jim Mattis, a toutefois affirmé que les États-Unis restaient vigilants sur la question du nucléaire. Par ailleurs, l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur une potentielle collusion entre la Russie et l'équipe de campagne 2016 de Donald Trump est totalement discréditée, a affirmé le président américain. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai rien fait de mal. Il n'y a pas de collusion ni d'obstruction de justice, a-t-il déclaré lors de ce point de presse à la Maison-Blanche. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, et la chancelière allemande ont assuré que le sommet de l'Alliance en juillet illustrerait l'unité transatlantique malgré les tensions avec le président américain. En dépit des différences sur le commerce, le climat, l'accord sur le nucléaire iranien, l'OTAN peut continuer à montrer une capacité de dissuasion et une défense forte, a estimé Jens Stoltenberg au cours d'une conférence de presse avec Angela Merkel. Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte et le président français Emmanuel Macron se sont dit favorables à la création de centres européens dans les pays de départ des migrants pour tenter de réguler le flux d'arrivée. Nous devons créer ces centres avant qu'ils ne se lancent dans la traversée de la Méditerranée, a déclaré M. Conté au cours d'une conférence de presse à Paris avec Emmanuel Macron, qui a également souhaité des missions d'agence en charge de l'asile de l'autre côté de la rive. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Bonsoir à tous. L'Afrique a débuté son mondial par une défaite dans ce qui peut être considéré comme le choc du groupe A. L'Uruguay a fini par faire plier l'Égypte. Edinson Cavani et Luis Suarez ont essayé, mais c'est finalement le défenseur central José María Jiménez qui a offert à l'Uruguay une victoire in extremis 1-0 face à l'Égypte, très handicapée par l'absence de Mohamed Salah. Pendant 90 minutes, les Uruguayens ont buté sur la défense égyptienne solidaire et physique, puis sur le gardien Mohamed El Shenawy. Mais dans la dernière minute du temps réglementaire, Jiménez a sauté très haut sur un coup franc excentré pour placer sa tête dans le petit filet. Loin d'elle, Shenawy impuissant cette fois-ci. La domination constante de la Céleste rend son succès mérité, mais il est cruel tout de même pour les pharaons. Notre consultant Élisée Oumpatine a suivi ce match. Voici sa lecture depuis Boïcon au Bénin.
L'équipe d'Égypte qui a été finalement privée de Mohamed Salah, toujours blessé, s'est imprimée 1-0. C'est assez cruel pour cette sélection de retour en Coupe du Monde après 20 ans d'absence. Si cette défaite face aux favoris du groupe A n'a rien d'infamante, elle reste difficile à avaler pour les hommes Victor Cooper qui pensaient finir le match nul avec cette une bonne dose de réussite. Et les pharaons avaient montré beaucoup de générosité et offert une belle résistance malgré l'absence de la star de cette équipe, l'attaquant. Mohamed Salah était conjuste et est resté sur le banc malgré un contenu encourageant. Les Égyptiens vont devoir se remettre de cette déception pour défier mardi prochain la Russie. Ils devront rapidement se ressaisir face à la Russie, bien sûr, s'ils veulent se qualifier pour les huitièmes de finale.
Dans le second match de la journée, le premier du groupe B, les Lions de l'Atlas ne devraient pas se louper d'entrée devant l'Iran. Malgré sa nette domination, le Maroc a buté sur l'Iran 0-1 qui a réussi le hold-up parfait. Les Lions de l'Atlas ont mis pourtant la pression d'entrée, mais Ziyech manquait le ballon en voulant frapper dans la surface. Puis le joueur de l'Ajax, Belanda et Benassia de la Juve sur une énorme triple occasion. En dépit de leur domination presque sans partage, les hommes d'Hervé Renard ont manqué de précision dans la zone de vérité face à une sélection perse qui s'est entre-temps réveillée et a commencé à porter le danger en contre. Les Marocains ont payé cash ces énormes occasions manquées. En fin de match, à la 94e minute, sur un coup franc, Aziz Boadbouz a commis l'irréparable en inscrivant un but contre son camp. Scénario presque identique avec ce qui est arrivé à l'Égypte qui s'est aussi incliné en fin de rencontre. Retrouvons notre consultant Élisée Oumpatine depuis Boïcon au Bénin.
Oui, il faut dire à Yacouba, parfait, de retour. En Coupe du Monde, après 20 ans d'absence, le Maroc a vécu des retrouvailles cauchemardesques ce soir en 5-0 contre l'Iran à Saint-Pétersbourg dans les dernières minutes d'un match pourtant largement dominé. Il faut dire que les Marocains, pourtant dominateurs, n'ont pas su trouver la bonne formule, surtout en attaque où ils ont manqué beaucoup d'efficacité afin de plier cette équipe iranienne. Il faut dire que les Iraniens repliés dans leur camp ont procédé par contre-attaque, ce qui a fini par payer dans les dernières minutes de jeu sur un coup de pied arrêté, bien sûr. L'attaquant Boadouz, qui trompait son propre gardien en se jetant de la tête sur un coup de pied arrêté, je l'ai dit tantôt, un hold-up qui fait très mal aux Marocains en attendant le résultat de Portugal et Espagne dans la soirée. Un résultat qui met en difficulté, bien sûr, cette équipe marocaine punie pour leur manque d'efficacité. Les Lions de l'Atlas devront désormais décrocher deux espoirs contre le Portugal le 20 juin, puis l'Espagne le 25 juin pour espérer rejoindre les huitièmes de finale.
Demain, l'Afrique réapparaît avec la première sortie du Nigeria dans ce mondial. Les Super Eagles feront face à la Croatie d'Ivan Rakitic et de Luka Modric à 19h temps universel dans le groupe D. Bien avant toujours, dans ce même groupe, l'Argentine fera face à l'Islande qui joue son premier mondial à 13h. À suivre aussi dans le groupe C, Pérou-Danemark à 16h et France-Australie à 10h. Justement, même si les Australiens ne sont pas un gros morceau, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, joue la carte de la prudence.
L'objectif se rapproche, c'est voilà, mordre à pleine dents, comme si c'était une pomme, et voilà, faire tous les efforts individuels et collectifs pour que l'équipe de France soit la plus compétitive possible. Je ne vais pas faire une préparation spécifique par rapport à un tel ou un tel. C'est des joueurs qui sont habitués au niveau. Évidemment, c'est la Coupe du Monde, c'est le summum. Et c'est notre premier match pour nous demain. Et ce premier match est toujours très important.
Le temps de cette Coupe du Monde est donc donné et ce week-end nous réservera sans doute encore des surprises comme cela est le cas le plus souvent au football.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. L'ex-gouverneur de la région du Logone oriental au Tchad, Adam Nouki Charfadine, et deux commandants de la gendarmerie impliqués dans la tentative d'assassinat de l'avocat Doumra Manassé et ses clients relaxés par la justice de Doba ont été arrêtés hier par les autorités judiciaires. Cette arrestation est la résultante d'une longue grève des magistrats et auxiliaires de justice. Notre correspondant André Kodmajingar nous en dit plus.
C'est par un mandat d'amener émis par le parquet général de N'Djamena que l'ex-gouverneur de la région du Logone oriental Adam Nouki Charfadine et deux commandants de la Légion de la gendarmerie de Doba ont été arrêtés par les éléments de la section nationale de recherche judiciaire. Cette interpellation intervient après plus de deux semaines de débrayage du personnel judiciaire qui paralyse l'appareil judiciaire sur toute l'étendue du territoire national. Le président du syndicat des magistrats du Tchad, Alara Kété Sanégar, ne considère pas cette arrestation comme un pas de gagné dans la lutte. Pour lui, Adam Nouki Charfadine est un repris de justice et comme tel, il doit être condamné conformément à la loi.
L'ex-gouverneur et ses hommes ont voulu se mesurer avec la justice parce qu'il s'agit là d'un discrédit lancé sur une décision judiciaire et sur l'indépendance de la justice. C'est prévu et puni par l'article 144 de notre code pénal. Il allait jusqu'à déclarer que le comportement de nos magistrats ne rime pas avec la volonté de la 4e République. Nous ne savons pas si la volonté de la 4e République c'est de créer des impunis, c'est de tuer et marcher sur les gens et sans être puni. Il y a un concours d'infraction contre lui, étant entendu que lui-même il est déjà un ancien condamné. Le moment venu, un par un, nous allons sortir tous ces faits pour que ce multirécidiviste soit corrigé.
La plateforme des auxiliaires de justice, à savoir avocats, notaires et huissiers du Tchad, qui passent des grèves perlées à une grève illimitée pour exiger l'arrestation de ces autorités pour tentative d'assassinat, se réjouit du déclenchement de la procédure. Pour le secrétaire de l'Ordre des avocats du Tchad, un pas est franchi, mais la grève ne sera levée que par l'Assemblée nationale. Maître Dumadoum Kemtok Emmanuel.
Je ne sais pas si toutes les personnes impliquées dans cette fusillade-là ont été auditionnées ou si c'est seulement le gouverneur, le commissaire adjoint et puis le commandant de brigade. Donc, je ne peux pas dire que oui, on va lever le mot d'ordre de grève. Non, on ne va pas lever. Non. Donc, on attend que les mises en cause soient desserrées devant M. le procureur de la République.
Maître Doumra Manassé, qui a échappé à cette tentative d'assassinat, informe que l'un de ses clients, qui semble être un témoin gênant dans cette affaire, libéré par la justice puis récupéré par ses autorités militaires, serait porté disparu.
Depuis vendredi, la famille a commencé par faire déjà le thé, parce que le procureur de Doba a crié dans Doba, ils m'ont rassuré qu'il n'est ni à l'ANS de Doba, ni détenu à Moundou. Pour la famille, il est exécuté.
Ces présumés auteurs sont toujours gardés à la section nationale de recherche judiciaire. Ils seront transférés au parquet général que quand toutes les parties sont auditionnées sur procès verbal. André Kodmajingar N'Djamena, VO Afrique.
Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Par ailleurs, nous venons d'apprendre que l'ex-gouverneur Adam Nouki Charfadine serait libéré de sa garde à vue pour qu'il participe à la prière d'aujourd'hui marquant la fin du Ramadan. L'opposant congolais en exil, Moïse Katumbi, a été interpellé à l'aéroport de la capitale belge avec un passeport falsifié. Il accuse le régime du président Joseph Kabila d'instrumentaliser les services de l'État congolais. Eddie Isango a interviewé son collaborateur Francis Kalombo.
Depuis quelques mois maintenant, Moïse Katumbi a fait une demande pour avoir le nouveau passeport, chose impensable. L'ambassade de la République démocratique du Congo ne lui a toujours pas donné la possibilité de pouvoir avoir, donc avec les instructions de Kinshasa, de ne pas lui octroyer le nouveau passeport biométrique. Ce qui fait que Moïse Katumbi continue à voyager avec l'ancien passeport, ce qui a posé un problème. Et ici, l'occasion pour nous de féliciter les autorités belges qui ont agi rapidement en lui octroyant un séjour. Donc maintenant, nous pensons que la République démocratique du Congo devait prendre conscience pour que le plus rapidement possible, on puisse lui délivrer un passeport dont il a droit.
On parle de falsification de documents. Qu'est-ce s'est-il passé exactement?
Il n'a pas intérêt. Moïse détient un passeport qui est valable jusqu'en 2020. Sauf que ce passeport-là, la République démocratique du Congo ne le veut plus, ils l'ont supprimé. Voilà pourquoi on a dit qu'ils ne pouvaient pas l'utiliser. Et comment il peut faire un faux passeport alors que c'est son passeport, c'est avec ça qu'il voyage. Le passeport est valable jusqu'en 2020, sauf que le Congo, en changeant des passeports, au lieu de laisser les gens continuer avec des anciens passeports, eh bien, ils ont annulé carrément le passeport de Moïse Katumbi, c'est-à-dire son ancien passeport. Mais au lieu de lui délivrer le nouveau passeport, vous avez suivi dans le média, il s'est présenté à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique, qui depuis n'a jamais donné suite. On lui a dit qu'on va l'appeler, ils doivent d'abord demander l'autorisation à Kinshasa, et depuis Kinshasa, étant donné qu'on a même instrumentalisé les institutions pour, au service d'une seule personne, et bien jusqu'à aujourd'hui, on ne lui a toujours pas donner la possibilité d'obtenir ce nouveau passeport. C'est ce que Moïse Katumbi attend jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi il doit prendre conscience que ce n'est pas comme ça qu'on doit gérer la République, même si on ne veut pas de Moïse Katumbi, mais lui priver d'un instrument, d'un passeport dont il a le droit. On se demande jusqu'où ils vont aller. Au moins ça, c'est l'acharnement pur et simple jusqu'à un document élémentaire. En fait.
Les autorités congolaises accusent M. Moïse Katumbi d'usurpation des nationalités. Est-ce que vous pensez que c'est lié?
Mais d'abord, c'est faux, ça ne s'est jamais prouvé. Ni les procureurs, ni les juges. Vous savez, Moïse Katumbi, on l'accuse de tout. Hein. Donc Moïse Katumbi est congolais, il est né au Congo, grandi au Congo, il a toujours eu son passeport.
Pensez-vous qu'il sera à même de se rendre au Congo?
Il n'y a pas d'autre choix. Nous pensons que le monde entier doit condamner cette manière de faire de la République démocratique du Congo, à empêcher quelqu'un parce qu'on sait qu'il est populaire.
C'était Francis Kalombo, il est collaborateur de l'opposant congolais Moïse Katumbi.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Burkina Faso, la question sur la rémunération des agents de la fonction publique alimente les débats. Les syndicalistes et le gouvernement étaient en discussion pendant 3 jours à Ouagadougou et ils se sont entendus sur certaines recommandations. Le point sur cette conférence avec notre correspondant dans la capitale, Lamine Traoré.
Le Burkina Faso, depuis plusieurs mois, connaît des mouvements sociaux. C'est dans ce contexte que le gouvernement a décidé d'organiser cette conférence sur le système des rémunérations des agents de la fonction publique. Le but, parvenir à maîtriser la masse salariale et instaurer un principe d'équité dans le traitement des fonctionnaires. Guy Olivier Ouédraogo, porte-parole des syndicats.
Nous sommes arrivés à un résultat qui nous satisfait parce que 80% des travailleurs qui souffraient de cette inéquité verront effectivement leur salaire revalorisé pour être au même niveau que les 20% qui avaient effectivement un niveau de salaire acceptable.
Selon les conclusions des travaux, 80% des fonctionnaires verront une augmentation de salaire. Souleymane Zoroumé, du syndicat des gestionnaires des ressources humaines, a participé aux travaux. Lui, il salue cette initiative du gouvernement.
Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, tout n'est pas à 100% acquis, mais déjà reconnaître que le gouvernement, il y a un traitement inégalitaire, iniquité entre les travailleurs. Reconnaître cela, prendre langue pour corriger cela, ça c'est un aspect positif pour nous.
Les participants se sont aussi penchés sur la réduction du train de vie de l'État. Parmi les recommandations, la suppression du poste du haut représentant du chef de l'État, du médiateur du FASO ou encore le Haut Conseil pour la Réconciliation Nationale. Aussi, les ministres et députés ne doivent plus bénéficier de leurs avantages et rémunérations 3 mois après la cessation de leurs fonctions. Les travailleurs des finances, qui ont entamé un bras de fer avec le gouvernement, n'ont pas pris part au débat. Rosine Souri Koulibaly, ministre de l'économie et des finances.
La Réunion n'a pas parlé de suppression du fonds commun. Et la Réunion a dit ramenons ça à des niveaux acceptables pour que cela puisse être géré. Je crois que avec cela, j'espère que nous allons avoir la compréhension des uns et des autres.
Les recommandations de cette conférence ne vont pas dormir dans les tiroirs. Paul Kabatieba, Premier ministre.
Les recommandations pertinentes issues de cette conférence seront mises en œuvre par le gouvernement dans le cadre de la refondation du contrat social avec les agents publics de l'État.
Des experts devront travailler pour la mise en œuvre de ces recommandations dans les 5 mois à venir. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM. Un kiosque ordinateur visant à améliorer la qualité des services publics et privés sera bientôt sur le marché grâce à un jeune Guinéen. Donc c'est en Guinée. Doté d'un écran tactile long de plus d'1,70 m, cet outil digital est équipé de logiciels capables de répondre dans différentes langues nationales. Notre envoyé spécial en Guinée, Abdourahmane Dia, est allé à la rencontre de l'inventeur lui-même, Muntaga Keita. On l'écoute.
À 100%, pas de prêt bancaire ni rien.
Dans cet immeuble familial de 7 étages, se trame un projet révolutionnaire. Au rez-de-chaussée, quelques ouvriers et techniciens sont en pleine construction de ce terminal digital. Et derrière cette idée, Muntaga Keita, un jeune Guinéen formé à Harvard, et une des sensations du dernier Africa Tech de Kigali.
Eh bien, sa particularité, déjà, c'est dans sa conception. Alors, ce que nous faisons exactement, nous faisons un manufacture design en 3D de cet appareil et nous le concevons techniquement, physiquement, dans cet environnement. Nous le mettons sur le marché, mais aussi, nous faisons tous les services, l'après-service, tout ce qui est lié à cet appareil.
Des compagnies aériennes aux commissions électorales, en passant par les banques, les cibles sont nombreuses. Ici, Muntaga Keita nous démontre comment les municipalités les plus reculées du continent peuvent y trouver leur compte.
Vous voyez, les élections, je me présente devant, ça me capture en photo, je mets mon numéro de carte électorale. Ça me sort tous les candidats. Par exemple, pour les municipalités, vous avez 7 colonnes avec les états civils, le e-government. Dès que je touche, par exemple, au bébé, ça m'envoie vers les actes de naissance. Exactement. Alors, ces actes de naissance, nous pouvons avoir soit une déclaration, soit une reconnaissance. La déclaration, vous avez là tous les thèmes. Et bien sûr, nous sommes progressivement en train d'attacher l'audio à tout cela. Et dans la langue nationale aussi, dans la langue de la personne. Nous avons le français, l'anglais, le peu, le soussou, malinké, guerzé, nous essayons de mettre le maximum de langues.
Muntaga Keita nous dit que la plupart des 35 développeurs, commerciaux, techniciens et personnels administratifs ont déjà été recrutés et devraient démarrer d'ici quelques semaines. Mais il connaît déjà les défis qui l'attendent.
Bien sûr, nous savons un groupe tel que le nôtre est encore petit par rapport aux grands groupes. Les grands groupes pourraient s'intéresser et venir essayer d'acquérir. Mais nous saurons aussi reprendre exactement. Nous avons toute une stratégie. La stratégie de collaboration est l'une des stratégies. Mais le rachat, non.
En attendant, on démarche les clients potentiels avant le grand démarrage de cette aventure dont l'idée a germé en 2014. Abdourahmane Dia, Conakry, VOA Afrique.
À votre avis, ce vendredi à 18h05, temps universel sur VOA Afrique, retour sur les matchs du jour de la Coupe du Monde 2018. Victoire de l'Uruguay sur l'Égypte, qu'en pensez-vous? Maroc-Iran, nous discuterons aussi de cette rencontre. Les Lions de l'Atlas sont-ils vos faveurs? Enfin, le choc du jour, Espagne-Portugal, avez-vous des pronostics? Laissez-nous vos numéros et commentaires ou appelez-nous en direct au 001 202 205 26 33.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Michel Joseph. À la présentation, Nathalie Barge. Restons en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique,